Il est difficile de rivaliser avec les mastodontes américains tels que Meta, Microsoft ou OpenAI, dont les valorisations atteignent des milliers de milliards de dollars. On ne sait pas encore si le rapprochement entre ASML et Mistral portera ses fruits, mais en tout cas, cela évitera à Mistral AI de passer sous contrôle de géants de la tech américains ou chinois.
Merci Annabelle Grolier pour ce décryptage. Un mot du temps demain, de la pluie et des orages sur de nombreuses régions avec un nouveau défilé de perturbations de la façade ouest à l'intérieur du pays. Plus à l'est, les éclaircies seront plus fréquentes. Les températures minimales iront de 8 à 14 degrés et même 20 degrés le matin près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera entre 18 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun. À la technique, il y avait Mineta Diawara. 18h20 sur France Culture, je vous laisse en compagnie de Quentin Lafay pour les questions du soir.
Merci beaucoup Stanislas Vazak, à vous et à la rédaction de France Culture pour ce journal. Et bienvenue à toutes et à tous dans Questions du soir. Première partie de soirée consacrée à l'actualité, au débat, aux idées et aux découvertes. Et à 19h dans l'actualité, vue par les idées et la recherche, alors que l'actualité politique justement est sociale et économique est vive et dense. Une rencontre avec l'économiste Thomas Piketty, il fait paraître ce que l'égalité veut dire, c'est aux éditions du Seuil, une discussion passionnante avec le philosophe américain Michael Sandel. Mais pour leur place, au débat du soir.
France Culture, question du soir. Quentin Lafay.
C'est un débat qui revient régulièrement sur le devant de la scène depuis plusieurs années. Les crimes sexuels sur mineurs, c'est-à-dire sur les enfants, doivent-ils devenir imprescriptibles? La CIVIS, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, en 2023, ainsi que le Parlement européen en juin dernier, ont demandé une nouvelle réforme pénale avec l'instauration de l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Mais le débat fait rage, y compris entre juristes. Alors, quelles questions ce débat soulève-t-il? Protège-t-il vraiment les victimes? L'imprescriptibilité risque-t-elle de remettre en cause les principes fondamentaux du droit? Pour en discuter, pour en débattre même, deux invités. Elsa Lévy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et autrice du livre intitulé « En finir avec la prescription des crimes sexuels sur mineurs », un ouvrage qui paraît demain aux éditions Autrement. Face à vous, Audrey Darsonville, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit pénal à l'Université Paris-Nanterre. Bienvenue dans Questions du soir. Et j'entame cette discussion, Elsa Lévy, avec les premières lignes de votre ouvrage que je cite. Il me reste 6 ans. Dans 6 ans, le viol que j'ai subi à l'âge de 8 ans par mon médecin traitant sera prescrit et son auteur pourra dormir tranquille. Si jamais ça n'est pas déjà le cas, étant donné l'impunité qui règne et qui fait loi. Lorsqu'en 2021, je suis sorti de 30 ans d'amnésie traumatique, j'ai appris que le crime que j'avais subi enfant allait bientôt être prescrit. Aussitôt, j'ai pensé, pourvu qu'on n'oublie pas, pas une deuxième fois, ce serait la double peine. Fin de citation. En quoi la prescription vous paraît-elle être une double peine, justement ?
Notamment dans le cas de l'amnésie traumatique qui est fréquente chez les enfants abusés. Une double peine dans le sens où la prescription va opposer un délai, un temps, à des enfants ou à des adultes qui ont été amnésiques, qui sont dans l'incapacité de parler et d'agir. Donc en fait, mettre du temps et imposer le fondement de la prescription qui dit qu'on va justement condamner la négligence d'une victime à ne pas avoir porté plainte dans les temps ou sa procrastination. Ici, c'est pas le cas. C'est vraiment que je pense que c'est ne pas comprendre la nature complexe d'un viol, surtout lorsqu'on est enfant, qui fait qu'on ne peut pas s'en défendre et que le temps d'acceptation, le temps pour réaliser ce qui s'est passé et ensuite en parler, c'est un temps extrêmement long. Et là, vous citez mon exemple qui n'est pas un cas particulier. Les sorties d'amnésie se font très tard, entre 40, 50, un peu plus. Mm-hmm. Donc finalement, moi je dis qu'il me reste 6 ans, mais il y a des personnes, elles auront un an pour avoir tout ce processus de réparation avec elles-mêmes, parce qu'il faut vraiment comprendre qu'une démarche, enclencher une procédure judiciaire, ça vient toujours très tard dans le processus de réparation. Donc là, c'est comme si on nous empêchait déjà de nous réparer et que le coup prétombe et que déjà c'est oublié. On vient de se rappeler et on nous dit bah non, c'est trop tard. C'est ça la double peine.
Avant d'entrer dans la discussion, dans le débat, Elsa Lévy, rappelez-nous ce que dit la loi française aujourd'hui au sujet de la prescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs.
La loi, les fondements ?
Les fondements, non, la loi, c'est-à-dire combien de temps cette prescriptibilité dure-t-elle aujourd'hui ?
Alors, c'est 30 ans après la majorité, donc on va jusqu'à 48 ans, ce qui peut paraître, ça paraît énorme dans l'absolu. Et je défends la prescription dans son intérêt, dans l'idéal qu'elle défend. Mais 30 ans pour porter plainte, après avoir vécu un viol enfant, ça ne correspond pas à une réalité, en fait, du crime subi.
On va y revenir évidemment, c'est une loi qui a été modifiée en 2018. Audrey d'Arsonville, avant d'entrer dans ce débat, je voudrais aussi que vous nous rappeliez les principes qui fondent justement la prescriptibilité, sa raison d'être dans le droit pénal français. Quelle est-elle ? C'est un principe mal aimé, notamment auprès de l'opinion publique.
Oui, alors c'est un principe, et c'est rappelé tout à fait dans votre livre. D'abord, c'est un principe qui est très ancien, c'est pas du tout un principe récent. Et c'est un principe qui a des fondements, alors un peu, j'ai envie de dire, philosophiques ou moraux, et puis des principes beaucoup plus juridiques, beaucoup plus pragmatiques. Le principe de la prescription, ça a été rappelé, c'est de considérer qu'au bout d'un certain laps de temps, si des poursuites n'ont pas été déclenchées, la justice pénale ne peut plus intervenir. Et elle ne le peut plus de façon définitive. C'est-à-dire que quand il y a prescription de l'action publique, la personne ne pourra plus jamais être poursuivie. Alors pendant très longtemps, on a évoqué des fondements qui étaient un peu de l'ordre d'un droit à l'oubli pour la personne qui était suspectée. En considérant que pendant tout ce temps de la prescription, alors qui est quand même assez long, hein, je rappelle, on vient de donner les délais en matière de crimes sexuels, mais en termes de droit commun, pour un crime, c'est 20 ans. C'est-à-dire qu'entre le moment où le crime est commis et la date butoir de la prescription, c'est 20 ans. Donc c'est quand même très long. L'idée était de considérer que la personne vivait dans une sorte de terreur pendant 20 ans d'être poursuivie. Alors je crois qu'aujourd'hui, ce type de fondement n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire je pense que c'est inaudible, en fait, pour être très lucide. La logique aujourd'hui, je pense, de la prescription, et voilà, je suis en faveur du maintien de la prescription, elle me semble être beaucoup plus pragmatique. Il est objectivement très difficile de juger très longtemps après les faits. Voilà, c'est compliqué, et c'est compliqué dans tous les domaines, hein, pas uniquement en matière de crimes sexuels, c'est compliqué pour toutes les infractions. Et le fait de juger très tardivement une infraction génère évidemment un risque supplémentaire d'erreur judiciaire ou matériellement d'impossibilité de poursuite. Donc il y a des raisons aujourd'hui assez pragmatiques, je dirais, au maintien de ce délai de prescription de l'action publique.
On va revenir sur la possibilité, cette possibilité d'organiser un procès des décennies après que le crime ait été commis. Je voudrais revenir un instant, Elsa Lévy, sur les principes de la prescription. Vous commencez par cela dans votre ouvrage, donc je vous cite à nouveau, vous écrivez « La prescription repose sur trois principes majeurs qui sont le droit à l'oubli, qui permet de préserver la paix sociale puisque le trouble causé s'apaiserait avec le temps, le pardon légal ensuite, qui considère qu'un individu peut évoluer, changer, et la proportionnalité des faits pour conserver un équilibre entre gravité des faits et durée de poursuite. Est-ce que la fin de la prescription des crimes sexuels sur mineurs viendrait remettre en cause, ébranler ces trois principes que vous énoncez là ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces trois principes ne tiennent pas lorsqu'il s'agit d'un... Je commence mon livre comme ça parce que j'essaie de déconstruire ces principes-là, qui sont une valeur cardinale du droit, dans le cas très particulier, parce qu'encore une fois, je ne me prononce pas sur la prescription en général, dans le cas très particulier des enfants victimes de viol, l'idée qu'un trouble causé va s'apaiser avec le temps me semble être irresponsable et complètement déconnecté de la réalité. On ne parle pas d'un trouble. Un viol, lorsqu'on est enfant, c'est irréparable, on ne s'en remet jamais, et ce n'est pas quelque chose qui va s'apaiser. Donc en fait, déjà, ça ne marche pas. Ensuite, il y a la question qu'un criminel, un homme, et c'est un idéal de société que je défends, en plus peut s'amender, évoluer, s'améliorer avec le temps, et que passer un certain délai, ça devient contre-productif, au-delà de ce que vous souleviez, Audrey, sur le procès, de condamner quelqu'un 30 ans après les faits, 40 ans après les faits. Sauf qu'en fait, lorsqu'on parle de pédocriminel, on parle essentiellement d'une pathologie. Donc on n'est pas sur un crime, un coup de sang, un moment d'égarement ou quelque chose de pulsionnel. On est quand même sur quelque chose qui ne se soigne pas tout seul et qui n'est pas pris en charge et qui n'est pas suivi et qui n'a aucune raison, comme par magie, de disparaître avec le temps. Au contraire, il est d'ailleurs dans beaucoup d'affaires et dans beaucoup de rapports que j'ai lus, des papas, parce que c'est quand même une problématique assez masculine, qui vont violer leur enfant, sont probablement des grands-parents, des grands-pères qui vont violer leurs petits-enfants. Donc voilà, la question de le changement avec le temps ne tient pas. Et ensuite, on était sur la gravité des faits. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la développer pour comprendre que c'est très grave. Il suffit de la prononcer. Et quand elle doit être mise en proportionnalité avec le temps qui reste pour engager des poursuites, je pense qu'elle doit être maximale pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, parce qu'en fait, on est encore une fois en train de condamner une incapacité et non pas une négligence, et que ça n'a pas lieu d'être, parce qu'en fait, c'est une ineptie pour moi de condamner ça.
Audrey d'Arsonville, une réaction sur le deuxième point soulevé par Elsa Lévy, c'est-à-dire que le pédocriminel, dans le fond, ne change pas, du moins ne change pas tout seul, puisqu'il s'agit d'une pathologie, et donc il doit être accompagné, notamment par des médecins à minima.
Oui, alors moi je ne suis pas médecin, donc je ne m'aventurerai pas sur sur ce terrain, puisque en réalité je pense que tout n'est pas pathologie.
Je parle évidemment de l'implication juridique.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tout n'est pas pathologie et le soin n'est pas forcément l'apanage du droit pénal. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du soin aussi en dehors de la justice pénale. En revanche, là où je suis parfaitement d'accord, c'est que les violences sexuelles, elles sont souvent sérielles. C'est-à-dire que la pluralité de victimes par un même auteur, elle est très fréquente. Donc je ne sais pas si ça relève véritablement d'une pathologie, mais en tout cas, il est très clair que on a souvent, effectivement, enfin vous l'avez cité, le père qui devient grand-père, les séries, elles ne s'arrêtent pas toutes seules. Et la justice pénale, ou en tout cas l'action pénale, est un outil très précieux, notamment pour ça, en tout cas pour intervenir.
Il faut peut-être évoquer tout de suite une notion, celle de prescriptions glissantes qui sont désormais prévues aux articles 7 et 8 du Code de la procédure pénale. Audrey d'Arsonville, de quoi s'agit-il? Quelle est cette nouveauté justement du droit pénal et qui élargit en partie justement la prescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs?
Alors la prescription glissante, c'est en effet très récent puisque ça date de 2021, et alors ça me permet quand même d'insister sur un point, c'est que la difficulté aujourd'hui à penser la prescription et la question autour d'allonger encore les délais, c'est qu'il faut faire attention à raisonner sur des textes qui ont été modifiés, qui ont été, vous l'avez rappelé, modifiés en 2018 et 2021, et que les effets de ces textes vont intervenir pour l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des victimes qui sont effectivement confrontées à cette situation de la prescription, mais il y a quand même une marge énorme de progression pour l'avenir grâce à ces mécanismes. Alors la prescription glissante, c'est un mécanisme qui est un peu compliqué, mais qui me semble être extrêmement intéressant, puisque c'est l'hypothèse dans laquelle un même auteur commet des viols en série sur différentes victimes. C'est un outil qui a été créé après l'affaire du père Prénat. Et en réalité, l'idée est de réussir en réalité à garder ouvertes les prescriptions des faits les plus anciens qui vont venir s'agréger aux prescriptions des faits plus récents. Et donc la logique, c'est d'espérer comme cela que si un auteur commet des séries, en réalité, des viols en série, que les dernières victimes permettent en fait de rattacher les prescriptions les plus anciennes et que toutes les victimes puissent être à l'audience. Ça, c'est très important. On a quand même beaucoup de procès, ça a été le cas dans l'affaire Le Squarneck, dans lesquels des victimes ne sont pas parties civiles parce que les faits sont prescrits et donc ne peuvent pas avoir le statut de partie civile à l'audience. Donc là, c'est vraiment l'objectif. C'est une technique qui est intéressante, mais qui pour l'instant est limitée aux victimes mineures, donc qui ne s'applique pas aux victimes majeures. C'est un des débats actuels devant le législateur. Et c'est quand même, il ne faut pas non plus se leurrer, une technique qui, à mon avis, va être très compliquée. On a très peu de recul, hein, c'est 2021. Risque d'être très compliqué à mettre en place si les moyens ne sont pas donnés, parce que ça suppose, dans les auteurs en série, on a quand même souvent des auteurs qui se déplacent sur le territoire, c'était le cas du père Prénat, hein, il s'est déplacé un peu partout, donc ça suppose une mutualisation des moyens des forces de l'ordre, parce que pour arriver à faire une série et donc une prescription glissante, encore faut-il sur tout le territoire national réussir à repérer des différentes victimes. Donc ça demande évidemment un effort de coordination qui probablement sera quand même assez difficile à mettre en œuvre.
Votre réaction, Elsa Lévy, sur cette prescription dite glissante? Est-ce que pour vous, c'est une véritable avancée ou dans le fond, ce n'est qu'un palliatif qui ne nous permet pas d'apporter ce que permettrait la fin de la prescription?
Ce qui est sûr, c'est que dans le cadre des viols sur enfants, il y a une limite qui est celle de la sérialité. C'est-à-dire que pourquoi un enfant qui subit pendant 10 ans les viols de son père, ça a été chiffré par plein de personnes. On peut parler de 3000 viols. Lorsqu'on est violé tous les jours pendant 10 ans, on est à 3000 viols. Faudrait-il qu'il ait violé un autre enfant plus tard, lorsque nous, notre histoire est prescrite, pour faire valoir nos droits? Je trouve que, en ça, il y a une limite sur la prescription glissante. Et c'est pas un cas particulier, la quantité de viols que peut subir une personne. Et je trouve qu'elle vient pas, ça résonne pas avec l'idée qu'on va condamner davantage quelqu'un qui a eu une quantité de victimes plutôt qu'une quantité de viols. Enfin, c'est, je vois pas l'intérêt, en fait, du calcul. Je comprends pas.
Quelle question, Audrey d'Arsonville, cela pose-t-il cette fin de la prescription sur la façon dont un procès se déroulerait? Un procès qui serait donc organisé peut-être 40, 50, 55 ans après que les faits aient été commis. Et notamment sur le rapport aux preuves. Certains parlent de dépérissement des preuves. Il faut nous mettre en lumière cet argument.
Alors la question du dépérissement des preuves, il est assez logique. Plus vous jugez tard et plus vous allez avoir des difficultés à récolter des preuves qui vont permettre d'établir alors une culpabilité ou aussi une innocence. Tout simplement parce que les témoins ne sont pas forcément en vie, les souvenirs se sont épuisés au fur et à mesure des années. Et la grande difficulté, en fait, elle est assez propre là au crime sexuel, c'est que on sait aujourd'hui que la preuve scientifique a progressé de façon massive et qu'aujourd'hui on peut avoir des tests ADN 30 ou 40 ans après les faits. Mais ça suppose d'abord d'avoir des scellés. Ça suppose d'avoir eu des empreintes qui ont été relevées au moment des faits. Et donc, si ça peut fonctionner pour des homicides où on a une scène de crime et on a eu des relevés de vêtements, etc., qu'on peut garder 30 ans après, en matière de violence sexuelle, ça n'existe quasiment jamais. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand une victime dépose plainte, mais même 15 jours après les faits, on n'a aucun scellé, on n'a rien. Donc l'avancée de la preuve scientifique, à mon avis, en matière sexuelle, elle sera inopérante pour pouvoir juger avec des preuves qui soient suffisamment efficaces 30 ou 40 ans. Et je préciserai aussi que outre le risque majeur, en fait, que la justice ne puisse pas juger, donc on ait des classements sans suite, mais ça, à la limite, une victime qui dépose plainte, elle le sait, elle décide ou non de déposer plainte, ça appartient aux victimes. Il ne s'agit pas de dire on n'a pas à porter plainte, enfin, chacun décide ce qu'il souhaite. La difficulté, c'est qu'en cas de condamnation, il risque d'y avoir quand même une difficulté en matière de peine. C'est-à-dire qu'on va avoir des auteurs qui vont être aussi très âgés et qu'il y a quand même une réalité matérielle qui fait que la détention pour des personnes très âgées est difficilement compatible. Et donc, il va y avoir aussi une problématique sur les peines, alors qui peut se résoudre. On peut aussi prononcer d'autres peines que de l'emprisonnement. C'est pas très fréquent en France. On a quand même une pénalité quand même assez monomaniaque de l'emprisonnement. Mais ça soulève quand même aussi une question de la peine, je pense.
Alors, on va parler de la question de la peine, mais d'abord une réaction sur ce dépérissement des preuves, Elsa Lévy. C'est un argument qui ne vous convainc pas lorsqu'on vous lit.
Ben non, parce que le dépérissement des preuves... Dans ce cadre-là, les preuves sont tellement compliquées à avoir, que ce soit le lendemain d'un viol ou 40 ans plus tard, que c'est pas l'argument le plus pertinent, et l'ADN non plus. Après, en revanche...
Pardonnez-moi de vous couper, c'est pas encore plus difficile quand même 30, 40 ans après plutôt que le lendemain?
Sans doute, mais on ne parle pas des avancées technologiques qui, elles, en revanche, font qu'on est dans une époque qui permet d'avoir des enregistrements, des réseaux sociaux, des vidéos, énormément de matériel, de preuves matérielles qui elles, ne sont pas, ne périment pas et qui doivent être mises en avant justement dans cet argument du dépérissement des preuves. Donc le dépérissement des preuves, en fait, dans un crime aussi complexe que celui-là est aussi caché et aussi difficile à démasquer, c'est pas ça. Et juste pour revenir sur la peine, parce que j'étais restée bloquée là-dessus, vous voulez en parler peut-être après.
Non, mais d'abord, je voudrais peut-être qu'Audrey d'Arsonville réagisse sur un point. En vous écoutant, on se dit peut-être sur l'argument du dépérissement des preuves, pourquoi ne pas tenter un procès? Après tout, on verra bien si preuve il y a, si preuve tangible existe. Au fond, là aussi, c'est à la victime de décider. Peut-être... Alors... que le procès servira à tout autre chose, mais que dans le fond, il aura son existence même pourra servir.
Exactement, mais c'est déjà beaucoup le cas aujourd'hui. On sait que puisque les crimes de viol sont jugés par la cour criminelle, l'audiencement des cours criminelles est saturé actuellement. Donc on est déjà dans un mouvement quand même de porter devant le juge pénal des affaires qui sont anciennes. Mais si je peux juste un peu élargir le spectre, au-delà de la prescription, moi je crois que le sujet très important aussi, c'est comment on récolte la preuve en matière de violence sexuelle. Et là, je pense qu'on a une défaillance majeure, parce qu'on est encore en train de chercher des preuves de viol, alors qu'ils aient 20 ans ou 15 ans, dans un espèce de parole contre parole qui ne devrait plus avoir lieu d'être. La Cour européenne vient nous le rappeler encore. En réalité, il faut aussi former les enquêteurs à d'autres recherches de preuves. Et alors là, je suis vraiment d'accord. C'est-à-dire que la technique, ne serait-ce que de la téléphonie, elle n'est pas encore assez utilisée. On a quand même des moyens d'étayer une parole contre une autre, parce qu'il y a beaucoup de déni en matière de violence sexuelle. Mais en fait, moi je trouve qu'il faut aussi un investissement dans la recherche de la preuve qui aujourd'hui est quand même très défaillant en matière de violence sexuelle.
Elsa Lévy, sur la peine, je vous cite cette fois-ci un extrait donc de votre livre intitulé « En finir avec la prescription des crimes sexuels sur mineurs ». Vous expliquez, page 97, cependant dans les voix qui s'opposent à cette imprescriptibilité, une question revient fréquemment, une incarcération des décennies après les faits aurait-elle un sens? On entendait Audrey d'Arsonville qui expliquait que c'était peut-être parfois compliqué de mettre en prison des personnes qui étaient extrêmement âgées. Qu'est-ce que vous répondez à cela alors, à cette question que vous posez vous-même?
Oui, déjà la loi prévoit qu'au-delà de 70 ans, on est éligible à une libération conditionnelle, donc on n'a pas des prisons peuplées de vieillards, qu'on se rassure. Et ensuite, surtout, la sanction principale, qui est aujourd'hui la seule que la justice ait, c'est la prison. Mais c'est pas que ce soit le lendemain des faits ou 40 ans plus tard, je crois vraiment que l'incarcération n'est pas une réponse. La prison ne soigne pas les pédocriminels. Et c'est pas du tout l'enjeu de l'imprescriptibilité, c'est pas de punir davantage et d'incarcérer plus de monde. En revanche, comment avoir un suivi socio-judiciaire qui est une alternative, ou en tout cas qui peut être autre chose? C'est-à-dire qu'on peut penser, comme vous disiez tout à l'heure Audrey, des peines qui seraient plus modernes et plus adaptées à ce cas très particulier, encore une fois. Et ces gens-là, quel que soit leur âge, je trouve qu'on ne peut pas se permettre de les laisser dans la nature sans suivi. Donc même si le procès de quelqu'un qui a 85 ans et on ne va pas l'incarcérer, je pense qu'on peut quand même se donner le droit de regarder ce qu'il fait, d'avoir une surveillance, de le suivre et de s'assurer qu'il n'est pas en train de commettre d'autres crimes et de mettre en danger d'autres enfants. Et c'est ça l'action pénale. Elle a aussi d'autres ressorts que juste la prison. Enfin, j'espère. Et c'est à nous d'en inventer d'autres. Et c'est ce que j'essaie de dire aussi dans le livre.
Une réaction d'Audrey d'Arsonville, justement, sur le sens même de l'action pénale. Ce n'est pas nécessairement même de placer le condamné en prison, même une fois que la culpabilité est reconnue, évidemment non.
Alors, j'ai envie de dire, ça ne devrait pas du tout l'être. Ça l'est aujourd'hui dans la situation pénale actuelle en France, mais ça ne devrait pas l'être. C'est-à-dire que la culpabilité prononcée n'induit pas par systématisme un emprisonnement ou une peine. Voilà, il y a énormément d'autres modèles de pénalité. Alors, beaucoup moins en matière de crime. Hein. En matière de délit, on a beaucoup d'autres peines, mais en matière de crime, on peut aussi quand même penser à d'autres formes de pénalité, évidemment.
Parmi les défenseurs de la prescription, Elsa Lévy, il y a un argument que l'on retrouve beaucoup, c'est la prescription servirait aussi d'élément déclencheur. L'échéance, au fond, de la prescription arrivant, certaines victimes se décideraient à passer à l'acte judiciaire, à témoigner, à franchir un commissariat pour déposer plainte. Qu'est-ce que vous opposez là aussi à cet argument ?
Oui, parce que je trouve que c'est une nouvelle fois mettre la responsabilité entre les... Enfin, c'est dire que c'est encore la faute de la victime de ne pas avoir réagi, puisqu'elle a... Voilà, ça doit quand même l'aider. Alors qu'en fait, l'élément déclencheur ne fonctionne pas, encore une fois, face à une incapacité. Et si je suis là, c'est ce que je mets dans mon livre au bout de plusieurs arguments, mais je vais en profiter tant que je suis là, c'est que je suis la preuve vivante, je ne suis pas un avatar devant vous, que lorsque on a... une sortie comme ça d'amnésie ou lorsqu'on sort d'une expérience aussi violente qui est un viol dans l'enfance, ça se passe pas comme ça en fait. Et moi, j'ai plus que 6 ans, j'en suis à écrire des livres et l'urgence dans laquelle je suis par rapport à ce combat, par rapport à tout ce que je viens vous dire ce soir sur le micro, n'est pas la même que mon urgence intime et personnelle. Et à aucun moment, vous voyez, je suis là et je suis pas dans un commissariat parce que ça se passe ailleurs. C'est une autre démarche et encore une fois, elle arrive tard dans le processus de réparation. Et j'en suis pas là, moi. J'en suis pas du tout là. Ça fait que 4 ans. Et donc, ça ne m'accule pas. Mm-hmm. La seule chose que je demande, c'est pitié, donnez-nous plus de temps. Dans 6 ans, je crois pas que je passe la porte d'un commissariat. De toute façon, moi, j'ai aucune preuve, y a rien. Mais symboliquement, je ne peux même pas enclencher quoi que ce soit parce que je n'en suis pas capable. Voilà, je ne suis pas capable aujourd'hui. Et c'est ma limite.
Audrey d'Arsonville, il n'y a qu'un crime aujourd'hui en France qui est considéré comme imprescriptible, c'est le crime contre l'humanité. Est-ce que la juriste que vous êtes, cela pose un problème intellectuel, encore une fois, que les crimes sexuels sur mineurs deviennent imprescriptibles parce qu'on les mettrait au fond au même niveau que ces crimes contre l'humanité?
Alors ça rejoint tout à fait l'argument que vous avez cité sur la proportionnalité. En réalité, en droit français, la prescription est devenue un outil d'évaluation de la gravité des infractions. Et on le voit très bien parce qu'en réalité, en droit commun, pour les crimes, par exemple, c'est 20 ans la prescription. En matière de crimes sexuels, c'est 30 ans. En matière de terrorisme, c'est 30 ans. Mm-hmm. Donc en fait, l'allongement
c'est
des délais...
C'est une évaluation de la gravité.
C'est une évaluation de la gravité. Et ça dit beaucoup de notre société, puisqu'aujourd'hui, on voit bien quels sont les crimes qui ont des prescriptions les plus longues. C'est le terrorisme et les infractions sexuelles. Mais dans l'échelle de la gravité, dans la hiérarchie du code pénal, Le crime le plus grave, c'est le crime contre l'humanité. C'est le crime qui est référencé en premier dans le code pénal parce qu'il est le crime le plus grave. Et donc, il est le seul à être assorti de cette imprescriptibilité qui est un marqueur de gravité. Alors après, on peut tout à fait réfléchir à remettre en cause ce seuil et à se dire qu'il peut... Mais là où j'ai une difficulté, c'est qu'il me semble très compliqué de passer le crime sexuel à l'imprescriptibilité, donc j'ai envie de dire même seuil de gravité, et de ne pas réfléchir les autres crimes. C'est-à-dire que je vois mal comment on peut ne pas se dire que finalement le terrorisme c'est aussi un crime extrêmement grave. La question elle se pose aujourd'hui, alors, parce qu'on est en attente de la décision de la Cour de cassation, mais par exemple en matière de cold case, aujourd'hui les premières affaires arrivent, et dans l'affaire Bonfanti on se rend compte que...
Les cold case, ce sont les affaires très très anciennes.
Oui, pardon, excusez-moi, les affaires très anciennes. Il y a un pôle cold case qui a été créé en France à Nanterre. La première affaire qui a été sortie, c'était il y a 30 ans. Le suspect a été identifié, il a reconnu les faits. C'est prescrit. Je pense que c'est inaudible aussi pour la famille. Donc, à mon avis, c'est une réflexion que la société doit avoir globalement et pas forcément que sur une infraction, le crime sexuel sur mineur, parce que je pense qu'il y a aussi en fait une vraie problématique sur d'autres infractions dont le seuil de gravité me semble à devoir être évalué aussi.
Je vous cite tout de même un extrait du rapport de la Civise sur ce sujet, page 658. Il est écrit « Les violences sexuelles attaquent chez l'enfant son appartenance à l'espèce humaine. C'est le comble de la violation qui porte atteinte à la continuité du monde. » Fin de citation. Il y a un lien qui est établi par la Civise entre, j'allais dire, la dignité humaine et donc pratiquement un rapprochement qui est fait entre les crimes sexuels sur mineurs et, dans la gravité, les crimes contre l'humanité. Est-ce que...
Je suis quand même très réservée. D'abord, je précise quand même que la Civise était divisée sur la question de l'imprescriptibilité. Toute la Civise n'était pas en faveur et que, par exemple, la CIA sur les abus sexuels dans l'Église s'est prononcée contre. Il me semble quand même qu'il faut se rappeler que le crime contre l'humanité, c'est une planification d'extermination d'une population. Voilà. Je crois qu'il faut aussi avoir conscience qu'on parle de choses différentes. Il ne s'agit absolument pas de nier la souffrance des victimes, mais je crois quand même qu'il faut garder à l'esprit que comparaison n'est pas raison. Et là, je crois que la comparaison n'est pas opportune à l'égard du crime qui est contre l'humanité, qui a vraiment cette particularité d'être dans une dimension intentionnelle d'extermination d'une population. Donc je crois que c'est quand même un peu autre chose.
Quelle réaction à cet argument Elsa Lévy portait, j'allais dire, à un même niveau de gravité, le crime contre l'humanité et les crimes sexuels sur mineurs?
Le seuil de gravité pour le crime contre l'humanité, dans la peine, c'est la perpétuité et l'imprescriptibilité. C'est ce qui le caractérise comme étant le crime le plus grave. À aucun moment, dans toutes les préconisations d'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, on demande à ce qu'il y ait une peine supplémentaire. Je vous dis même, moi, que je trouve que 20 ans... Enfin, j'en sais rien, mais que la prison n'est pas la réponse. Donc le but n'est pas d'avoir une peine plus lourde, mais d'avoir l'imprescriptibilité. Donc à aucun moment, on est en train de re-hiérarchiser la peine. Donc il n'y a pas... Et la question des crimes contre l'humanité, étrangement, vient beaucoup en France, mais dans d'autres pays, qui sont des pays tout à fait des états de droit, des pays démocratiques, il y en a quand même pas mal, la Belgique, la Suisse, l'Irlande, la Suède, la Grande-Bretagne, 17 états des États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et j'en oublie la Hongrie, ont tous adopté l'imprescriptibilité sans mettre en face l'argument du crime contre l'humanité. Donc... Voilà, je sais pas, enfin, cette hiérarchisation de la gravité, parfois, me semble même un peu indécente, parce que je trouve que c'est difficile de comparer. Vous avez cité, voilà, l'argument de la Civise, et oui, il y a quelque chose où il n'y a pas besoin de faire un génocide pour détruire des vies. Est-ce que, voilà, après, c'est tout l'objet de ce débat, mais je pense que la base, c'est la hiérarchisation des peines qui n'est pas du tout remise en cause.
Et sur l'argument avancé par Audrey d'Arsonville, au fond, on parle aujourd'hui dans cette émission des crimes sexuels sur mineurs, mais quid effectivement du terrorisme, d'autres crimes qui sont absolument gravissimes? Est-ce qu'il faudrait aussi, j'allais dire, mettre l'imprescriptibilité au même niveau, le rapporter aux crimes contre l'humanité?
Mais alors, il faudrait vraiment que j'étudie le dossier de près pour me prononcer. Je pense que, dans l'absolu, la prescription doit être vraiment protégée, parce que je crois vraiment que c'est une valeur essentielle. Après, j'ai l'impression qu'elle est assez âgée, cette prescription. Elle est un peu vieille même. Et donc, pourquoi ne pas s'autoriser au moins à en débattre? Et quand on ne veut pas le débat, c'est ça qui m'inquiète. Et c'est vrai que je sens beaucoup de réticence chez beaucoup de juristes à ne même pas vouloir en parler. Et je me dis, tiens, ça soulève une question. Et effectivement, sur le terrorisme, pourquoi pas se poser la question et faire comme on fait ce soir, un débat, réfléchir, voir. Mais cette objection permanente m'inquiète plus qu'autre chose, en fait.
La prescriptibilité, Audrey d'Assonville, c'est quelque chose de vieillot, d'âgé, de poussiéreux?
Alors, c'est sûr que c'est vieillot, c'est sûr, et c'est tout à fait vrai. Il y a beaucoup d'États qui n'ont pas de prescription. On peut, enfin, moi, je suis plutôt très favorable à l'ouverture d'un débat général, mais qui ne soit pas centré que sur une criminalité, mais sur différentes criminalités. Et je pense que la société aurait intérêt à se poser la question de la prescription. Est-ce qu'on maintient ou non cette institution ? Moi, j'y suis plutôt favorable, mais en tout cas, je pense que le débat, il devrait être ouvert, mais à mon avis, il devrait être ouvert plus largement.
Plus largement que sur les crimes sexuels sur mineurs. Je voudrais vous citer maintenant l'extrait d'une tribune qui a paru dans le journal Le Monde. C'était en 2021. Elle est signée de 6 avocats à la Cour qui écrivent « Depuis 8 ans au moins et sous l'impulsion de François Molins, ancien procureur de Paris, le parquet, informé de violences sexuelles pour lesquelles la prescription ne fait aucun doute, ouvre systématiquement une enquête préliminaire plutôt que de constater l'extinction automatique de l'action publique. Le garde des Sceaux a d'ailleurs récemment déclarait qu'une circulaire allait encadrer cette pratique pour mieux la généraliser. Le choix de ressusciter l'action publique, le temps d'une enquête qui aboutira nécessairement à un classement sans suite, s'expliquerait par la volonté de vérifier si les faits sont bien prescrits, de mettre en exergue l'existence d'éventuelles autres victimes et surtout de ne pas les laisser sans réponse. Fin de citation. Est-ce qu'on n'est pas là dans une démarche de fausse culpabilité sur des faits prescrits, Audrey d'Arsonville ?
Alors, je ne pense pas que ce soit la fausse culpabilité. Je comprends très bien cette tribune, je crois, sauf rien de ma part, a été faite par des avocats.
Exactement.
Moi, je pense que c'est une très, très bonne démarche pour deux raisons qui sont les deux raisons qui sont critiquées, mais qui me semblent à l'inverse tout à fait opportunes. La première, c'est que les lois sur la prescription ont été considérablement modifiées en matière d'infractions sexuelles et on a des règles d'application de la loi pénale dans le temps qui sont fort compliquées et donc ont beaucoup de magistrats qui se trompent sur l'application de la loi. Donc, se poser et dire on va pas tout de suite clôturer l'enquête en disant c'est prescrit, peu importe. On va quand même réfléchir pour vérifier si effectivement, dans les différentes strates et les différentes lois, on n'est pas sûr de la prescription non acquise. Donc je pense que c'est important de le faire. Et la seconde, c'est que ça me semble extrêmement important, non pas pour des fausses culpabilités, mais pour de réelles culpabilités. C'est-à-dire que enquêter, ça peut permettre de déceler des situations dans lesquelles des victimes auraient pu exister, qui seraient dans des temporalités plus récentes et qui pourraient ou non souhaiter déposer plainte et déclencher des poursuites. Je précise que la personne qui dépose plainte dont les faits sont prescrits, pour elle, ça ne changera rien à sa situation. Donc, il n'y a pas de vindicte de la part de la victime qui va déposer plainte en sachant que c'est prescrit. Il y a une idée qui est de dire qu'on peut peut-être réussir à avoir un dossier qui va se monter parce que des victimes plus récentes seraient identifiées et souhaiteraient déposer plainte. Donc, je pense que c'est au contraire une vraie avancée.
Je voudrais vous faire entendre la voix de Joren Laeners, élu néerlandais chargé du texte qui a été voté au Parlement européen en juin dernier et qui avance sur ce sujet de la prescription des crimes sexuels sur mineurs.
Nous constatons que pour de nombreuses victimes mineures de violences sexuelles, ce n'est qu'à un stade avancé de leur vie qu'elles seront prêtes à porter plainte contre leurs agresseurs. Et dans de nombreux États membres, nous constatons déjà que lorsque ces victimes sont prêtes à le faire, le temps s'est écoulé et qu'elles ne peuvent plus obtenir justice. Le Parlement européen envoie aujourd'hui un signal clair que pour nous, lorsqu'il s'agit de violences sexuelles sur des enfants, la justice ne peut pas simplement s'arrêter à une date limite. Les victimes seront toujours en mesure d'obtenir justice.
Quelle est votre réaction, Elsa Lévy, d'abord sur l'adoption de ce texte, mais également sur les propos qui viennent d'être tenus ?
L'adoption géniale, parce qu'en plus, je crois de mémoire que c'était 599 voix.
C'est à la quasi-unanimité.
60
absolument.
Abstentions, 2 non, je crois. Donc, ce n'est pas un petit oui. Et surtout, en fait, ce que ça raconte... Enfin, il y a quelque chose qui me vient en entendant ça. C'est qu'en France, l'imprescriptibilité sur l'action civile, qui permet donc les réparations, les dommages et intérêts, elle fait totalement consensus. D'ailleurs, la prescription, dans ce cadre-là, court à partir du moment où il y a une consolidation de préjudice. Autrement dit... quand on veut, parce que la consolidation du préjudice sur un viol, on peut la dater, c'est facile de la dater quand on veut, puisqu'il n'y en a jamais. Donc, étrangement, ça fait consensus en France. Et pourquoi l'imprescriptibilité de la déclaration de culpabilité, elle, crée une telle révolte, alors que finalement, ça raconte qu'il y a une problématique derrière d'impunité et de vouloir changer la loi et la régler. Par exemple, un autre élément qui me vient, qui m'amène à me dire, mais il faut vraiment bouger la loi, et elle bouge à l'avance, c'est des choses toutes bêtes, mais quand on sait qu'en 2021, jusqu'en 2021, demander une fellation à un enfant, c'était un attouchement. C'était un viol, pardon. Lui faire une fellation, c'était un attouchement. C'est vraiment quand même une lecture très masculine du droit, de dire que, enfin, ça raconte que peut-être un viol ou la loi est faite en fonction du degré de plaisir que le viol pourrait procurer. Enfin, on en est là. Et donc, en réalité, c'est tous ces points-là qu'il faut regarder. Et je trouve que les Européens, enfin, dans ce que l'Europe propose, on est dans quelque chose de plus moderne où on a envie de regarder de plus près une réalité et des conséquences d'un crime qui sont, je crois, sous-estimé encore aujourd'hui, vraiment sous-estimé.
Audrey d'Arsonville, vous qui êtes opposée à la fin de la prescription des crimes sexuels sur mineurs, comment vous lisez ce vote? Comment est-ce que vous l'accueillez? On a l'impression qu'il y a pratiquement un consensus politique autour de ces questions, sans doute par ailleurs dans l'opinion publique. Est-ce que c'est une question de juriste, justement, que de tenter de vouloir maintenir cette prescriptibilité?
Alors, c'est probablement une tentation de juriste. Je pense que le ressort quand même premier de l'inquiétude d'une grande partie des juristes qui seraient opposés, elle est quand même sur le fait qu'on est en matière criminelle et que je crois que l'angoisse, c'est vraiment l'erreur judiciaire. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, de se dire que, voilà, des poursuites très, très tardives, ça accroît ce risque. Maintenant, moi, je suis juriste et respectueuse de l'Union européenne. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Enfin, je veux dire, l'Europe de tous les côtés nous dit qu'il faut absolument bouger. Enfin, je dis de tous les côtés parce qu'on a aussi les condamnations de la Cour européenne. Je crois qu'il faut aussi que... C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord. C'est que ce débat, il doit arriver, vraiment. Enfin, je veux dire, on ne va pas pouvoir faire semblant d'ignorer ce que le Parlement européen nous dit. Voilà. Et je voudrais juste rebondir, mais le député dit aussi quelque chose de très intéressant. Et là, je pense qu'on a énormément de retard. Et vous l'avez dit à plusieurs reprises, Elsa. C'est la question de l'amnésie traumatique. Elle est documentée quand même depuis maintenant pas mal d'années. On a l'impression qu'on la découvre, enfin, dans les juridictions. La sidération, c'est pareil, c'est documenté depuis très longtemps. On a l'impression que ça émerge seulement. Donc, je pense qu'il y a aussi une vraie question d'acculturation des juristes à des phénomènes qui sont quand même portés par des psychologues et des psychiatres depuis fort longtemps et sur lesquels on a beaucoup trop de réticence dans le monde judiciaire.
Elsa Lévy, vous souhaitiez réagir?
C'était juste sur l'erreur judiciaire, parce que c'est un argument qu'on met beaucoup en avant et c'est encore un argument qui s'oppose aux victimes, parce qu'on a quand même une justice qui est très centrée sur les auteurs.
Ah oui,
réellement sur les victimes. Et en fait, l'erreur judiciaire, déjà, c'est compliqué de condamner un auteur de violence sexuelle peu de temps après les faits. Très tard, ce sera encore plus compliqué, on le sait. Donc l'erreur judiciaire me semble vraiment limitée. Et comme il faudra des preuves, enfin, il y aura besoin d'autant de choses. Et à aucun moment, la prescriptibilité ne demande à ce qu'on se base sur des procès qui seraient que sur du déclaratif, du parole contre parole. Enfin, le système du contradictoire n'est pas du tout mis de côté. Enfin, ça ne change rien. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout un argument valable non plus, l'erreur judiciaire.
La voix de Camille Kouchner dans un entretien en avril 2021 pour la sortie de son livre « La Familia Grande » aux éditions du Seuil.
L'écriture de ce livre m'a permis de comprendre aussi, puisque je devais désigner les choses, mettre des mots, appeler les choses telles qu'elles étaient. J'ai compris plein de choses en écrivant. La prescription, c'est de 30 ans aujourd'hui. Elle est de 30 ans après la majorité. Donc elle devrait être jusqu'à 48 ans. Et nous, on a 45 ans. Donc on devrait pouvoir porter une plainte efficace devant la justice. Simplement, la loi n'est pas rétroactive. Donc elle n'est pas applicable aux abus sexuels perpétrés avant. Donc c'est un peu particulier. Oui, il faudrait prendre en considération ce temps. Il est pris en considération puisque c'est 30 ans après la majorité. Simplement, ça n'est pas applicable.
Cette non-rétroactivité qui empêche Camille Kouchner justement d'intenter un procès à son agresseur, Audrey d'Arsonville, là aussi, comment aborder cette question? C'est un principe mal aimé également.
Oui, mais alors là, c'est vraiment un principe de droit absolu et qui est conforté par le Conseil constitutionnel, c'est la non-rétroactivité des lois pénales. Alors je précise que évidemment, quand un crime est prescrit, il n'est jamais réouvert. La prescription, elle est absolument définitive. En revanche, quand il y a une loi nouvelle comme celle par exemple de 2018 qui a allongé les délais, les prescriptions qui n'étaient pas encore acquises bénéficient immédiatement. C'est-à-dire que c'est une particularité en droit français, c'est que les lois de prescription s'appliquent tout de suite, même si elles sont plus sévères, ce qui n'est pas le cas pour toutes les autres lois. Donc quelqu'un qui serait arrivé au bout de son délai de prescription, mais qui ne serait pas encore acquis, la nouvelle loi fait repartir pour le nouveau délai. Donc voilà, mais je peux que conforter ce que dit Camille Kouchner, évidemment.
Évidemment.
La loi n'est pas rétroactive.
Elsa Lévy.
Oui, je suis bien sûr. Et de toute façon, après, ce qui est rassurant, c'est que plus le temps avance, voilà, tous les crimes après cette période-là ne le seront plus. Donc ça, voilà, c'est un problème. Disons que là, on est un peu dans le sas, le mauvais sas, quoi. Mais c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Donc c'est la seule chose qui me rassure. Mais après, bien sûr, je souscris à ce problème.
D'un mot, Elsa Lévy, vous parliez un peu plus tôt dans cette discussion d'un retard français en la matière. À quel point est-il flagrant, selon vous ?
Flagrant par rapport aux autres pays ?
Par rapport aux autres pays européens notamment.
Mais en fait, moi je pense que c'est plus... Mais en réalité, ce qui est fou, c'est que selon un sondage Ipsos, 70% des personnes interrogées veulent l'imprescriptibilité... Enfin, ils sont favorables, hein, des crimes sur... des viols sexuels sur enfants. La CIVIS, voilà, dans son étude de 2023, elle dit bien que la demande la plus formulée par les victimes, c'est quand même l'imprescriptibilité. Donc on n'est pas en retard socialement. Notre société n'est pas en retard. C'est d'un point de vue des législateurs qu'on est en retard. Et c'est pour ça que je vous donnais l'exemple tout à l'heure des lois qui doivent avancer. C'est que je pense qu'on est peut-être dirigé par des gens qui ne sont pas assez en complémentarité intellectuelle avec les victimes pour comprendre comment, ensemble, on peut créer quelque chose qui a plus de sens. Et là, pour moi, c'est là le problème, il vient d'en haut. En bas, je pense qu'on est tous plutôt ouverts à moderniser notre système et favorables à ce que ça aille mieux, à ce que ce soit mieux.
Et Audrey d'Arsonville acquiesce de la tête. Merci à toutes les deux de ce débat extrêmement constructif. Elsa Lévy, vous êtes journaliste et autrice du livre intitulé « En finir avec la prescription des crimes sexuels sur mineurs » qui paraît demain, je le rappelle, aux éditions Autrement. Et Audrey d'Arsonville, professeure de droit pénal à l'Université Paris-Nanterre. Merci à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Mathias Mégy, Stéphanie Villeneuve, Diane de Vincey, Antoine Héral. Et à suivre, après le journal, l'actualité chargée en matière politique, économique et sociale. Et un invité pour l'analyser, l'économiste Thomas Piketty.